à Paris, une heure de moins en temps universel.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce RFI Midi. On part pour un nouveau tour du monde de l'actualité avec nos correspondants, nos reportages, nos invités, dans un monde dans lequel une nouvelle guerre est officiellement ouverte. Cette fois-ci, c'est entre le Pakistan et l'Afghanistan. Alors pourquoi ce nouveau conflit? Quelles conséquences pour chacun des deux pays, mais aussi pour la région? Question à poser dans un peu plus d'une heure avec notre invité. Situation plus que jamais inflammable et surveillée de près par l'Iran, qui redoute aussi toujours une intervention américaine sur son sol. On va entendre l'inquiétude des Iraniens dans un instant dans le journal.
RFI Midi.
Dans l'actualité également, les Clinton entendus par les parlementaires américains sur l'affaire Epstein.
Je ne sais pas combien de fois j'ai dû répéter que je n'avais jamais connu Jeffrey Epstein, que je ne m'étais jamais rendu sur son île, à son domicile, dans ses bureaux.
Hillary Clinton donc qui assure que son mari Bill ne savait rien des crimes de Jeffrey Epstein. Bill Clinton, lui, doit être entendu par la commission parlementaire aujourd'hui. À suivre aussi le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et puis Afrique Midi dans une heure et demie. Mais d'abord, donc, le journal international. Bonjour Karine Bellichat.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et on commence par ces signes qui s'accumulent autour d'une possible intervention militaire américaine en Iran.
La Chine exhorte ses ressortissants à quitter l'Iran dès que possible, tandis que le département d'État américain autorise ses employés non essentiels en poste en Israël à quitter le pays en raison de risques pour leur sécurité. Dans l'hypothèse d'une riposte de Téhéran, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit, lui, extrêmement alarmé par le risque d'escalade régionale. En Iran, l'angoisse des habitants augmente. Reportage de Siavosh Ghazi.
Behrouz, un Iranien d'une quarantaine d'années, tient un magasin de vêtements dans le petit bazar de Téhéran. Depuis des semaines, les clients sont rares et son commerce tourne au ralenti.
Le bazar est totalement à l'arrêt parce que tout le monde est dans l'attente. Est-ce qu'on va vers la guerre ou bien il y a un accord? Personne ne prend de risque. Normalement, à cette période de l'année, avant le nouvel an iranien, nous avions énormément de clients et nous commandions beaucoup de produits pour remplir le magasin. Cette année, on a seulement commandé 10% de ce qu'on commandait les années passées. Nous avons l'expérience de la guerre de 12 jours en juin. Ils ont frappé la nuit et nous avons dû fermer nos magasins pendant 12 ou 13 jours. Et chacun essaye d'assurer seulement le quotidien de sa propre famille.
L'incertitude et l'angoisse font désormais partie du quotidien. Beaucoup rêvent d'un accord pour sortir de cette situation, mais d'autres, notamment parmi ceux qui avaient manifesté début janvier, espèrent toujours une intervention américaine. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
L'Iran est pourtant prudemment confiant après les discussions sur le nucléaire avec les Américains à Genève hier, même si son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, met en garde Washington contre toute exigence excessive. Téhéran ne veut pas renoncer à enrichir l'uranium, mais affirme toujours que le nucléaire civil est sa seule ambition. Pas question non plus d'évoquer lors de ces négociations ces missiles balistiques.
Pour le Pakistan, il s'agit à présent d'une guerre ouverte lancée contre les autorités talibanes de Kaboul.
Islamabad a frappé la nuit dernière plusieurs villes afghanes, dont la capitale et Kandahar, fief des talibans. Kaboul annonce des frappes à grande échelle en représailles. Islamabad accuse les autorités afghanes d'abriter les talibans pakistanais sur son sol. Écoutez les explications de Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS.
Le contexte général ne peut pas se comprendre si on ne prend pas en compte ce qu'a été au fil des dernières années la multiplication des attentats terroristes au Pakistan, menés pour l'essentiel par ce qu'on appelle les talibans pakistanais. Et les accusations pakistanaises consistent à dire tous ces gens-là bénéficient de sanctuaires au sens stratégique du terme sur les terres afghanes, ce que nie donc le régime des talibans.
Jean-Luc Racine, interrogé par Daniel Valo.
L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur Gaza, tuant au moins 5 Palestiniens, selon la défense civile locale.
Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu et les échanges de tirs se poursuivent quotidiennement dans l'enclave palestinienne.
Le gouvernement syrien et des factions druses de la province de Souaïda ont échangé des prisonniers sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge.
Plus de 80 hommes détenus depuis les violences meurtrières de l'été dernier dernier dans ce bastion druze du sud du pays. Un cessez-le-feu est entré en vigueur fin juillet, mais la situation reste tendue et l'accès à Souaïda difficile.
Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo qui a annoncé cette nuit la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie.
Fille de Patrice Lumumba, figure de l'indépendance congolaise, elle portera les couleurs de Kinshasa. Cette annonce intervient alors que Kigali a confirmé vouloir présenter Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'OIF. Depuis le début de l'année, et plus encore ces deux dernières semaines, les autorités congolaises ont multiplié les consultations. Plusieurs noms circulaient. Bonjour Patien Ligaudy.
Bonjour.
Mercredi dernier, le président Félix Tshisekedi a évoqué ce dossier avec Emmanuel Macron.
Exactement. D'abord, cette citation, s'appeler Lumumba, c'est d'abord un être digne et se soumettre à un devoir de responsabilité, disait-elle en 2019. Aujourd'hui, Juliana Lumumba veut porter cette responsabilité à la tête de l'OIF. À 71 ans, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, elle a été journaliste pendant une dizaine d'années, puis vice-ministre de l'information et ministre de la culture dans son pays. Polyglotte, français, anglais, arabe, swahili et lingala, avec des notions de russe, elle a quitté son pays à l'âge de 5 ans et a vécu dans plusieurs pays. Elle revendique aujourd'hui un regard forgé par l'histoire, notamment sur les rapports entre pays dominés et pays dominants, et plaide pour une francophonie des peuples, selon ses mots hier à RFI et au niveau du continent africain. De 2007 à 2015, elle a été secrétaire générale de l'Union des chambres de commerce africaines au Caire. Son nom a été retenu au terme des consultations accélérées ces dernières semaines et selon les informations des RFI, sur la shortlist figurait notamment Christophe Lutundula, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Freddy Matungulu, ancien ministre ex-candidat à la présidentielle passé par le FMI et la Banque africaine de développement, ainsi que Vital Kamerhe, plusieurs fois ministre et ancien président de l'Assemblée nationale.
Patient Ligaudy du service Afrique de RFI.
La tâche s'annonce plus difficile, hein, Karine, pour Bill Clinton, auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire en charge de l'affaire Epstein.
Le nom de l'ex-président américain apparaît à de multiples reprises dans les documents du criminel sexuel, même si aucun fait répréhensible ne lui a jamais été reproché, contrairement à son épouse, ancienne chef de la diplomatie américaine, entendue hier dans les mêmes conditions à huis clos, qui a répété qu'elle n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Hillary Clinton a demandé à ce que Donald Trump soit lui-même auditionné, cité des milliers de fois dans ce dossier.
Et puis c'est une surprise, Netflix refuse finalement de relever son offre de rachat de Warner Bros face à Paramount.
Le géant du streaming estime que l'opération n'est plus financièrement attractive. C'est un coup de théâtre en effet majeur dans ce dossier à rebondissement qui dure depuis plus de 5 mois. Loïc Piala.
C'est terminé. Titre l'hebdomadaire spécialisé Variety, la fin d'une saga qui agite Hollywood depuis plusieurs mois. Warner Bros. Discovery a donc finalement jugé la proposition de Paramount supérieure à celle de Netflix. $31 par action pour l'ensemble du groupe, soit les studios de cinéma, la plateforme HBO Max et les chaînes câblées dont CNN, le géant du streaming, ne proposait lui qu'un peu moins de $28 pour les studios et HBO Max. Netflix avait 4 jours pour surenchérir. La firme californienne a tout de suite annoncé qu'elle ne le ferait pas. Le rachat de Warner était une opportunité, pas une obligation, a expliqué un communiqué. Pourtant, Ted Sarando, son patron, a fait le tour des médias ces derniers jours pour défendre son offre. Il avait aussi rendez-vous à la Maison Blanche ce jeudi. La plateforme n'a pas tout perdu dans cette affaire. Warner Bros. Va devoir lui payer $2.8 milliards pour avoir annulé l'accord conclu en décembre. Pour David Ellison, le propriétaire de Paramount et ami personnel de Donald Trump, c'est une victoire, mais elle lui coûte très cher. Loïc Piala, Los Angeles RFI.
11h09 en temps universel. Les pays de l'UE pourront utiliser des fonds européens pour permettre à des femmes d'avorter partout en Europe.
C'est la réponse de la Commission de Bruxelles à la pétition citoyenne signée par plus d'un million de personnes réclamant des financements pour un accès sécurisé à l'avortement dans l'Union. En revanche, de nouveaux fonds ne seront pas débloqués comme le demandaient les associations, ni une forme de garantie européenne plus contraignante pour permettre de contourner les restrictions nationales.
Au Royaume-Uni, le Parti vert s'est imposé dans un fief du parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer.
Le Labour est relégué à la troisième place derrière le parti anti-immigration réforme UK de Nigel Farage. Anna Spencer devient la cinquième députée en exercice au sein du Parlement britannique pour les Verts, qui souhaite augmenter les impôts des riches et se déclare ouvertement pro-palestinien. Cette défaite représente un nouveau coup dur pour Keir Starmer.
Souvent de son tracteur au paysan, de ses voitures au garagiste ou de ses machines à l'ingénieur. Pour lutter contre cette routine, il est inutile de rechercher l'aventure dans l'exotisme du bout du monde. Il suffit simplement d'une conversation insolite où l'on oublie la spécialité de chacun, l'étiquette du métier, pour retrouver l'homme avec ses rêves, ses aspirations et ses préférences.
Actif par principe. cherche un refuge. Un pas en avant et soudain tu recules. Je suis fébrile et parfois c'est terrible. Ton amour me guérit ou peut-être qu'il me tue. Je préfère les petites causes aux grandes charités. Je préfère les grands défauts aux petites qualités. À force de vivre et puis à force de fuir, toutes les choses qu'on esquive finissent par arriver. Moi j'ai pas gagné grand chose à côté de vous. En vrai l'amour c'est surcoté de fou. Encore à l'heure pour que les hommes pleurent, plombés par leurs erreurs, qu'ils ne tiennent plus debout. Si notre terre est ronde, faut vraiment que je la traverse, car c'est de mon côté qu'on a la tête à l'envers. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens. Les sentiments à l'envers.
M'aimer ou aveugler, parfois on vit les sentiments à l'envers.
Les sentiments à l'envers. Dis-moi comment j'étais avant nous deux. Étais-je heureux avant d'être amoureux? J'ai fait le tour de tes chansons d'amour. Pour moi tout ce qui est lourd te paraît langoureux. Dans ma semaine tous les jours sont dimanche. Aujourd'hui la haine, demain on se complimente. Bouger la tête et puis trouver la paix. Et puis toute ma peine sera ma confidente. J'ai tellement de choses à te dire que t'ignores. Y'a tellement de questions pour moi que tu portes. Te dire au secours avec de grands discours. Mais au final je t'envoie un texte où tu dors. Pas besoin d'ennemis, mes amis me détestent. Pas besoin d'amis, t'es la seule qui me reste. À force de me perdre, j'essaie de remettre tout ce que je t'aime dans le bon sens. Les sentiments à l'envers.
Aimer ou aveugler, parfois on vit les sentiments à l'envers.
Les sentiments à l'envers.
Aimer ou aveugler, parfois on vit les sentiments à l'envers.
Okay.
Aimer ou aveugler, parfois on vit les sentiments à l'envers.
Les sentiments à l'envers.
Thank you.